Chapitre 6. À la découverte de l'île. Une des premières décisions de Gordon, c'est d'organiser la vie scolaire des petits. Ce sont les grands qui donnent les cours. Ils enseignent les matières principales et font une conférence deux fois par semaine. De plus, Gordon charge Baxter de tenir le journal de la vie sur l'île. Les cours sont la seule occupation en cette saison. Le froid augmente chaque jour et bientôt la neige rend les promenades impossibles. Fin juin, la température descend jusqu'à 12 degrés au-dessous de zéro. Le gibier devient rare. Wilcox pêche parfois du poisson, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut utiliser les provisions du Sloogie. Début août, la température remonte un peu. Tôt le matin, Donifan, Brian, Service, Wilcox et Baxter vont jusqu'à la baie Sloogie. La neige recouvre la plage. Baxter hisse un pavillon neuf sur le mât. Donifan tue un couple de canards et à 4 heures, ils sont de retour à la grotte. Ainsi passe l'hiver. Le 10 septembre, voilà 6 mois que le Sloogie est échoué sur l'île Sherman. Avec le printemps qui arrive, on décide de continuer l'exploration de l'île. On s'aventure d'abord autour de la grotte. Puis, début novembre, le temps enfin beau, une expédition, avec Gordon à sa tête, part découvrir la rive ouest du lac de la famille jusqu'à sa pointe nord. Sur la carte du français, la rive ouest s'étend sur 18 milles environ. L'expédition va durer plusieurs jours. Les premiers 6 milles, ils longent la rive du lac. Quand elle devient marécageuse, ils pénètrent dans la forêt qui est en bordure. C'est la forêt découverte par Brian pendant sa première expédition. Les arbres, des chênes et des pins sont superbes et le gibier important. Ils font un premier campement au bord d'une rivière. Ils la nomment « Rivière du repos ». Ils sont alors à 12 milles de leur point de départ. À l'aube, ils repartent. Ils suivent à nouveau la rive du lac en direction du nord. Vers midi, Donifan, qui marche devant, s'exclame « Nous arrivons à l'extrémité du lac !» En effet, peu après, on aperçoit la pointe du lac et à l'est, la rive opposée. Ils continuent de marcher. Peu à peu, les roseaux et le sable remplacent les arbres. Quand ils arrivent à l'extrémité du lac, le sable s'étend jusqu'à l'horizon. Toujours d'après la carte du français, ce désert de sable s'étend sur 12 milles jusqu'à la mer. Il est inutile de continuer. Après une nuit dans cet endroit où seuls viennent quelques oiseaux de mer, ils repartent vers la grotte. À la rivière du repos, ils dégustent une outarde que Donifan vient de chasser. Puis ils se dirigent vers l'ouest, car Gordon veut rentrer au plus vite. À 4 heures, ils sont à la colline d'Auckland, où ils décident de passer une dernière nuit. Pendant que Service prépare le repas, Gordon et Baxter se promènent sous les arbres et remarquent d'étranges animaux. « Des chèvres !» dit Baxter à voix basse. « Prenons les vivantes !» dit Gordon. Baxter, avec le lasso qui l'accompagne partout où il va, parvient à attraper l'une d'elles et avec elle, ses deux chevreaux. Ce ne sont pas des chèvres, mais des vigognes qu'ils viennent d'attraper. Ces animaux sans cornes et aux longues pattes vivent surtout dans les plaines d'Amérique du Sud. Tôt le lendemain, ils repartent. La vigogne suit sans difficulté Service et Webb, qui portent ses deux petits. Ils marchent vite quand ils entendent un coup de feu et la voix de Doniphan. « Attention ! Faites attention !» Soudain, surgit de la forêt un animal de grande taille. Baxter lance à nouveau son lasso et le stoppe. C'est un guanaco qu'il vient de capturer. Cet animal, classé dans la famille des chameaux, est pourtant très différent des camélidés. Son long cou, ses pattes fines et son poil roux font penser à un cheval. C'est aussi un animal très doux qui peut facilement servir de bête de trait. L'expédition est une réussite. C'est avec des bravos et des rires que Brian et les autres accueillent les explorateurs et les animaux.